On joint maintenant Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Ottawa accusé de manquer à ses obligations en éducation francophone depuis 10 ans.
C'est le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador qui lance cette accusation à Patrimoine canadien, surtout de ne pas respecter 3 de ses obligations en matière de langue, en financement de l'éducation en français plutôt. Les deux parties ont récemment présenté leurs arguments devant la Cour fédérale, mais c'est un dossier qui date d'environ 10 ans. Ce que reproche principalement le Conseil scolaire, c'est un manque de consultation pour déterminer les besoins pour la communauté francophone et un financement minimal de l'éducation pour les francophones de la province. Patrimoine canadien, de son côté, se défend en affirmant que c'est aux provinces de consulter et non au gouvernement fédéral. Il y a un troisième point dans tout ça qui concerne le manque de transparence dans l'utilisation des fonds pour l'éducation en français par la province. Le pouvoir de dépenser en éducation, c'est un pouvoir des gouvernements provinciaux. Mais le gouvernement fédéral peut financer l'éducation en langues officielles. Ça fait partie de la loi et de la Constitution, mais plutôt de la Charte des droits et libertés. Mais le fait qu'ils veulent... les provinces ne veulent pas avoir de compte à rendre au fédéral sur la façon dont ils dépensent l'argent qui leur est donné. Les francophones demandent que ce genre de suivi puisse être fait depuis des années parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'argent est réellement utilisé. L'argent donné par Patrimoine canadien pour l'éducation pourrait être utilisé à d'autres fins qui ont plus ou moins rapport avec l'éducation. Mais les provinces résistent à ça. On n'est pas capable d'avoir des clauses dans les ententes parce qu'ils ont quand même leur droit de dépenser. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones avait, il y a plusieurs années, tenté d'analyser les budgets des provinces, voir que si l'argent d'éducation du patrimoine canadien était transféré en éducation dans les provinces. Ils ont découvert que c'était impossible de le faire. Il n'y a pas assez de reddition de comptes, il n'y a pas assez de suivi dans les budgets. Bref, concernant la cause du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador et contre le patrimoine canadien, ils ont déposé leurs arguments, c'est pris en délibéré par la Cour fédérale et on attend maintenant le dépôt du jugement.
Et on s'en va en Acadie. Pas de nouveau seuil linguistique pour les municipalités du Nouveau-Brunswick.
Je reviens sur une nouvelle dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'était à propos d'une résolution qui allait être déposée pendant l'Assemblée générale annuelle de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Ça a eu lieu en fin de semaine. L'objectif de cette motion-là, c'était pour augmenter le seuil de la population anglophone qui justifie une offre de services en anglais dans les villes à majorité francophone du Nouveau-Brunswick. En ce moment, le seuil est de 20% d'anglophones. Il faut commencer à donner des services en anglais. La motion, c'était de demander au gouvernement de faire passer ce seuil-là de 25 ou à 30. L'Assemblée a voté pour reporter le débat à l'année prochaine. Une des raisons, on dit que c'est qu'il va y avoir des élections municipales au Nouveau-Brunswick en mai 2026. Donc, on préfère attendre que les nouveaux conseils municipaux soient en place. On veut aussi un peu se donner le temps d'en discuter, de ne pas créer une controverse en lançant ça sans tenter le terrain, sans y avoir réfléchi, sans avoir vérifié si le gouvernement est même ouvert à discuter de cette possibilité.
Par ailleurs, Front uni des syndicats d'enseignants ontariens contre le projet de loi 33 de l'Ontario, c'est dans le droit.
Oui, puis je vous fais un rappel, c'est quoi le projet de loi 33? C'est un projet de loi qui est en deuxième lecture au Parlement ontarien qui accorde davantage de pouvoir au ministre de l'Éducation de l'Ontario. Si le ministre juge nécessaire, il peut suspendre les pouvoirs d'un conseil d'administration d'un conseil scolaire. Par exemple, s'il trouve qu'il ne respecte pas son budget, que les dépenses sont trop élevées, que le déficit est trop élevé ou que quelque chose d'autre arrive, c'est un peu vague, c'est pas très bien défini apparemment, ce qui peut constituer une bonne raison pour prendre le contrôle. Puis bon, le ministre ne prendrait pas directement le contrôle, il nommerait quelqu'un pour s'occuper des affaires du conseil. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre ce projet de loi-là. Et plus récemment, c'est les 5 syndicats d'enseignants de l'Ontario qui incluent l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Ils expriment un peu leur inquiétude sur les dérives possibles que cette prise de pouvoir pourrait permettre. Les syndicats rappellent que pour les petites écoles éloignées, un administrateur de Toronto, basé à Toronto, ne pourrait pas comprendre les besoins d'une petite communauté rurale et ça pourrait créer des problèmes. Les syndicats accusent aussi Queen's Park de, en fait, se servir de ce projet de loi-là pour détourner l'attention du véritable problème du système éducatif ontarien, qui est le sous-financement et le manque de personnel. Il peut justement parfois entraîner des déficits.
Dans le franco, il est question du casse-tête des médecins francophones formés à l'étranger.
Ça a l'air tellement difficile pour les médecins formés à l'étranger d'obtenir le droit de pratiquer en Alberta que l'organisme Réseau Santé Alberta a créé un groupe de soutien pour les immigrants qui ont une formation en médecine dans leur pays d'origine, mais qui arrivent au Canada, que cette formation-là n'est pas reconnue comme étant équivalente, donc doivent suivre un processus pour être réaccrédités, on pourrait dire. Ces gens-là suivent donc le processus d'accréditation qui peut être très long. Le Collège des médecins de l'Alberta affirme que ça devrait prendre environ 3 ans, mais c'est souvent plus long que ça, surtout parce que les immigrants qui arrivent ici, ben, doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Par conséquent, la mise à jour ne se fait pas à temps plein, ça se fait à temps partiel. Il y a aussi la barrière de la langue, comme j'ai déjà entendu, comme on a déjà vu aussi ailleurs, les immigrants francophones qui arrivent ici ne sont pas toujours bien informés de la façon que le bilinguisme fonctionne au Canada et ils ne savent pas toujours que s'ils sont pas au Québec, ils ont besoin de connaître l'anglais pour pouvoir travailler la majorité du temps. Ils doivent donc également mettre à jour leur connaissance de l'anglais. Bref, le groupe créé par Réseau Santé Alberta aide ces gens-là à moins se sentir seuls. C'est un appui entre collègues, disons. Ça leur permet de persévérer davantage dans le processus d'accréditation, qui peut être lourd.
Oui, certainement. La solidarité joue un rôle important ici. Il est question d'insécurité alimentaire. C'est dans le Nunavoie.
C'est un texte partagé entre les 3 journaux des territoires qui nous apprennent qu'en 2024, plus du tiers des familles de ces 3 territoires-là canadiens vivaient de l'insécurité alimentaire. Et ça, c'est malgré une subvention qui s'appelle Nutrition Nord, qui a été créée en 2011. Grâce à ça, le prix de plusieurs... Mais malgré cette subvention-là, je devrais dire, le prix de plusieurs aliments reste élevé. Le programme subventionne en fait le transport des denrées selon le moyen de transport et la localité où il s'en va. Mais il y a un rapport qui a été produit, qui a été publié cette année, qui critique l'efficacité du programme Nutrition Nord. On affirme dans le document que les investissements sont en fait trop faibles pour que la subvention soit réellement efficace. Puis selon une des causes autrices, c'est la professeure Valérie Tarasuk de l'Université de Toronto, les investissements manquent de sérieux. Elle croit que les gouvernements et les politiciens sont conscients du problème de l'insécurité alimentaire au territoire, mais ailleurs aussi, mais qui ne comprennent peut-être pas la gravité de la situation. Il n'y a, selon elle, aucune discussion qui est engagée en ce moment pour régler sérieusement l'insécurité alimentaire, ni d'ailleurs pour envisager une approche de souveraineté alimentaire.
Finalement, Julien, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance francophone à l'honneur, c'est dans Franco-Presse.
Oui, cette semaine, c'est l'Association des universités de la francophonie canadienne a décidé de lancer la première semaine nationale de reconnaissance d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. C'est non assez long, mais ça dit tout ce que ça a besoin de dire. Ça a lieu cette semaine. Donc, l'objectif, c'est un peu d'attirer l'attention sur ce métier-là. On va en profiter pour remettre les premiers prix nationaux de reconnaissance des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. C'est aussi le lancement d'une série de balados nommés « Empreintes sur l'avenir » qui ont été enregistrés avec des professionnels du milieu. Puis l'association veut, avec tout ça, rappeler qu'il y a encore beaucoup de défis dans le milieu de la petite enfance francophone, à commencer par une pénurie de personnel, mais il y a aussi des manques de places et d'infrastructures et de financement à certains endroits pour certaines communautés. Selon l'Association des universités, d'ici 2035, les services de la petite enfance vont avoir besoin d'environ 22 000 professionnels, alors que selon les données actuelles des gens et des formations disponibles, il va avoir seulement un bassin d'environ 11 000 personnes pour ces emplois-là. Donc, c'est la moitié moins de ce qu'on aurait besoin dans plusieurs années. Et concernant la semaine, on espère que c'est juste une première et qu'il va y en avoir d'autres.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on se dit à la prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Merci.